Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor.
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul!
Vous l'avez vu?
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission Ciné Primitif.
Salut tout le monde.
En compagnie de Bobo et Dahu comme d'habitude.
Bonjour, bonjour.
La forme?
Très bien, toi?
Ouais, nickel. Petit rappel du concept de l'émission avant de commencer, on va vous présenter 6 films sur un thème imposé et passer une musique issue de leur bande-son. Et le thème qui a été choisi aujourd'hui,
c'est Monstre.
Monstre, un thème que tu as choisi, Dahu.
Oui, j'ai choisi. Oh, les monstres, ça part à tout le monde, il y en a partout. C'est assez simple, du coup.
Définition très complexe de monstre.
Ah, bah, oui, c'est vrai, j'ai brassé large.
Ouais, bah, là, du coup, mais c'est très large par rapport aux monstres qu'on a.
Ça peut être tout, hein. Difformité, créature un peu imaginaire. Ça peut être tout, un hein, monstre.
Ah, on a varié les plaisirs, là.
Ouais. Chacun son interprétation, ouais. Et du coup, je vous propose qu'on passe au premier film.
Et le premier film, c'est Ghostbusters.
Yeah.
Un chef-d'œuvre sorti en 1980. Réalisé par Ivan Reitman, qui a aussi réalisé Un flic à maternelle et Les Jumeaux.
Oula, 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 oula.
Les scénaristes, c'est Dan Aykroyd qui joue dedans. La durée, c'est 1h45 et c'est sorti le 8 juin 1984. Le synopsis, c'est 3 scientifiques excentriques, Peter Venkman, Ryan Sands et Egon Spengler, qui se lancent dans une activité inhabituelle, chasser les fantômes. Basé à New York, ils fondent une entreprise de paranormal et paranormal extermination appelée Ghostbusters. Alors que leur popularité grandit, ils découvrent une menace surnaturelle majeure qui pourrait détruire la ville. Les acteurs principaux de ce film sont Bill Murray,
yeah.
Dan Aykroyd, qui jouait aussi dans les Blues Brothers et qui a participé au scénario du film, Harold Ramis, qui fait Egon, qui a participé au scénario, Sigourney Weaver, pas spécialement besoin de présenter, Alien, Avatar, Soyez sympa en bobiné, etc. Mm. Et Rick Moranis, qui incarne Louis Tully, c'est l'acteur principal de Chérie, j'ai les gosses, La vraie histoire
des J'adore cet acteur.
Ce film a été un carton total à sa sortie, hein, ça n'a pas coûté tellement cher, hein, 30 millions, ça a rapporté 295 millions. Compositeur, c'est Elmer Bernstein, chanson culte, vous doutez qu'on l'entendra après.
Oui, on la passera tout à l'heure. Ouais,
ça a été tourné en grande partie à New York et dans des studios Universal de LA. Que dire sur ce film?
Franchement, il est bien foutu pour un film qui...
Clairement, à part tout ce qui est CGI, mais dès qu'on est sur d'animatronique et tout, le CGI, ça reste assez court, hein, tu l'as pas...
Ouais, en plus en 80.
Et c'est une idée originale quand même. Quoi.
Après, c'est le petit bébé de Dan Aykroyd.
Ah bah,
faut...
C'est que tout le monde a participé, que ce soit les acteurs qui ont participé au scénario et le réalisateur Ivan Reitman aussi qui était très investi sur
j'adore Dan Aykroyd déjà dans son rôle et puis tout ce qu'il a fait sur le film.
Normalement c'était son pote de Blues Brothers qui devait jouer dedans
mais il est décédé entre temps
quelques mois avant, du coup ils ont pris Bill Murray qui était un pote à lui aussi.
Et Bill Murray très bien dedans aussi.
John Belushi, je cherchais ça.
C'est un film familial, mais il y a quand même beaucoup de références au sexe, au cul, hein, je trouve. Hein. C'est une scène de fellation.
clairement. Donc, je veux dire, il y a un fantôme qu'il a pas emprisonné, il le garde dans sa chambre.
On est dans les années 80, quoi.
il y a la sublime Sigourney Weaver. Ouais. Franchement, elle est magnifique.
Ouais. Toujours génial.
Elle était au top de sa carrière en transformation dans là. C'est...
Magnifique. Elle a été lancée quelques années auparavant par un autre film que l'on verra tout à l'heure.
Oui, peut-être.
Peut-être.
Tu es sage. Mais un film en plus, je l'avais pas vu enfant, moi perso, je l'ai vu sur le tard. Mais
ça a créé un effet de mode total entre les.
Ouais.
Tous les produits dérivés, les jeux vidéo. Non, mais c'est ça. Kenner, t'avais des petits jouets.
Le logo, il était partout. Il a été partout dans les 20 années qui ont suivi le film. Il était partout le logo.
Sur une idée originale, ça sert, surtout qui pouvait prédire que ça allait marcher aussi bien et avoir un hit musical aussi, avoir tout en fait. Ce film là, il n'y a pas grand chose à acheter. Le rythme est bon, tout fonctionne à mon trois enfants aussi.
Jeune,
peut-être. Il y a un peu de fantômes quand même. Il y a des fantômes assez sales, le pilote de taxi, tout ça.
Ouais, déjà rien que dans la bibliothèque, hein, quand elle s'énerve, ils font pipi dans la culotte, les trois là.
Un film à ne pas louper, à vraiment regarder, revoir et revoir.
C'est vrai.
Sans aucune modération.
On a commencé par un gros classique.
Ouais. Un peu moins fan du 2, on en parlera pas. Mais
ouais,
ça se regarde. Et puis, faut quand même parler, parce qu'on a fait effectivement déjà une émission moteur. Mais bon, ça pouvait rentrer dedans quand même.
C'est vrai que leur voiture culte.
Oui, on respecte pas toujours les thèmes. On fait ce qu'on veut, quoi. C'est
bon, après, le moteur, on le voit pas tout le temps non plus.
Comme la DeLorean, tu vois, là, c'est une voiture qui reste emblématique.
Le corbillard aménagé.
Dès qu'il y a une voiture, il y a un moteur, de toute façon.
Moi, franchement, demain, tu me dis, t'as assez de voitures pour aller travailler, ça me marche.
Enfin, bref.
T'as levé le garage aussi qui a été utilisé.
The Mask, on en a parlé l'émission Fantastique.
Puis la caserne utilisée pour le tournage, elle existe toujours. Bon, elle n'est pas utilisée comme une caserne, hein. Je pense que c'est un lieu de pèlerinage, je sais pas trop.
De pèlerinage.
Les fans de Ghostbusters, je sais pas trop. Je pense pas qu'il y ait de pourvu, c'est pas très gros.
On va se renseigner là-dessus.
Voilà.
Et du coup.
Du coup, on va passer à la musique. Hein.
Allez.
Alors, la musique du film Ghostbusters, la chanson culte de Ghostbusters de
Ray Parker Jr.
C'est ça.
Allez, c'est parti. Un fantôme chez vous, qui on appelle
Ghostbusters.
SOS Fantôme, c'est en français qu'on
fait. Ouais,
parce que mon niveau d'anglais est très mauvais. On passe au film suivant, Bobo.
Alien, le 8e passager, donc le premier de la quadrilogie qui suivra, voilà, réalisé en 79, avec l'Oscar des meilleurs effets visuels, réalisé par Ridley Scott. C'est son deuxième film. Ridley Scott, voilà, je suis pas un grand fan. C'est un réalisateur.
Il a fait du lourd, mais il a pris un coup de vieux maintenant.
Ouais, mais c'est un réalisateur esthétique.
En dents de
scie. Voilà, il a fait Blade Runner, Gladiator, Hannibal.
Non, mais je pense qu'il a atteint un pic et que là, c'est la pente descendante depuis quelques années. Ouais,
il a fait le dernier duel récemment, qui était pas trop mal.
Mais déjà, on va juste parler de Napoléon, tu vois. Bah, voilà, moi, je l'ai mis aux oubliettes. Je le mets aux oubliettes, le gars. Non, il est dégueulasse parfois. Donc, réalisateur, voilà. Mais là, il a fait véritablement un chef-d'œuvre avec Alien. Mais il faut pas oublier que c'est un réalisateur esthétique. Et le film, il est magnifique. Là, on va parler monstre sur ce film, mais le vaisseau, ouais, l'intérieur du vaisseau.
C'est un des meilleurs huis clos, de toute façon, ouais, que j'ai vu. Hein,
la maquette du vaisseau, elle fait 2 mètres, entre 2 ouais, et 3 mètres. Elle est monstrueuse. Avec une distribution Sigourney Weaver, la magnifique Sigourney Weaver.
On a vu dans Ghostbusters.
Juste avant, dans. Non, excuse-moi, SOS Fantôme.
SOS Fantôme, pardon.
Qu'on a pu voir aussi dans Avatar. SOS on Fantôme. A Harry Dean Stanton, qui a joué dans. Christine,
ah.
Las Vegas Parano aussi, on a John Hurt dans Midnight Express et V pour Vendetta, et Ian Holm dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue monsieur
Frodon Sake.
Bilbon Sake.
Oui.
Bilbon, ouais, quel faux fan.
Oh là là, oh là là. Hérésie.
Ah là 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 là, honte à toi Dahu, honte à toi. Bref. Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, 7 hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerais. Mais lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage. Après que le docteur de bord lui retire le spécimen, l'équipage retrouve le sourire et dîne ensemble. Jusqu'à une des scènes
la plus mythique,
où Kane, pris de convulsions, donc voit son abdomen perforé ouais, par un corps étranger vivant qui s'échappe dans les couloirs du vaisseau.
C'est génial.
Cette scène, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, si, cette anecdote. Je te laisse faire.
Effectivement, les acteurs n'étaient pas forcément prévenus. Il y a eu beaucoup d'impro sur le tournage du film.
Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ils avaient les grandes lignes.
Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Et surtout, la fille qui se fait éclabousser de sang, qui devait avoir le rôle principal, mais ils ont préféré Sigourney Weaver. Merci à eux d'avoir fait ce choix. Elle n'était pas prévenue. Et donc, elle a eu une vraie réaction quand elle a éclaboussée quand elle par le sang. Ouais.
C'est bien. Traumatiser les acteurs, ça fait des bons films. Oh, comme dans Shining.
Là, tu mets les acteurs, tu les repousses dans l'air, franchement. Quoi. Avec des répliques cultes comme dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et ça, même.
C'est pas une réplique, c'est dans la croche de l'affiche, je crois.
Tout à fait.
Ils n'en parlent pas.
En plus, scientifiquement parlant, c'est fondé. C'est ça qui est extraordinaire.
Pour avoir été pas mal dans l'espace, je te confirme.
J'ai jamais vu des concerts d'espace en temps rien.
Et attention, spoiler, effectivement, il y a Ash qui est qui n'est pas très humain. Qui dit à un moment donné, je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie.
On le revoit dans le dernier Alien qui est sorti au cinéma.
Ouais.
En reconstitution, parce qu'il est mort depuis au moins 5 ans.
un Alien qui n'est pas réalisé par Ridley Scott.
C'est pas lui qui produit, c'est lui qui. Pour en venir à Alien, je comprends pas comment Ridley Scott est passé de chef-d'œuvre comme ça à ce qu'il fait maintenant.
Ouais,
quoi.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Des persos, tu les connais, tu sais qui fait quoi en l'espace de. Un quart d'heure! Tu sais, lui, c'est lui. C'est pas encore qui est le personnage principal.
Ça, c'est très fort d'ailleurs, parce que tu t'attends pas à ce que ça soit pour, je pense, les spectateurs de l'époque qui ont été voir le film. Ils savaient pas que ça allait être Sigourney Weaver.
Dans sa vie, il a eu des petits problèmes là, et il a fait de la merde au niveau des films. Il a fait de la merde. Ça, c'est un chef-d'œœuvre, faut le dire.
Il a tué sa saga, quoi.
Hans Rudy Giger. Le père d'Alien, donc qui va créer le parfait organisme. C'est un artiste suisse qui a créé donc cet alien. Et aujourd'hui, c'est une œuvre. C'est une œuvre à part entière. Et il a créé un courant artistique de biomécanique.
Ok.
C'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une œuvre d'art. L'alien, c'est une œuvre d'art.
Au-delà de l'alien, il a fait aussi tous les décors intérieurs.
Mais c'est pour ça que je dis que Ridley Scott, c'est un réalisateur esthétique, parce que
il savait s'entourer aussi.
C'est sublime. Et cet artiste, Giger, là, le Suisse, il a fait un travail fabuleux dessus.
Je sais pas du tout comment ils se sont rencontrés.
Et le mélange d'Alien, c'est du bio, si tu veux, donc un être vivant mélangé à du mécanique.
Ouais.
Et ça, et ça, ça ne s'était jamais vu, tu vois.
Et en plus, l'alien, on le voit pas tant que ça dans le film. Parce que, bah, déjà, je pense que le costume, il était pas non plus au point. Donc, on est dans des espaces
tout
assez sombres.
Suggéré, c'est
Et c'est ça qui fait peur. C'est
l'ambiance
ça qui marche.
L'ambiance sonore est parfaite.
Il n'y a pas besoin de tout montrer. Il n'y a pas besoin de CGI.
Après, voilà, l'ambiance sonore, on va en reparler. Mais vous le connaissez tous. Hein, c'est Jerry Goldsmith.
Jerry Goldsmith.
Voilà,
un habitué de l'émission.
Mais pour en revenir.
On l'invitera la saison prochaine.
Ouais, peut-être.
Pour en revenir sur l'alien, en fait, il y avait trois aliens. Donc, il y en avait un utilisé pour le film. Il y avait un cascadeur qui était dans le alien. Balaji Badejo, si tu nous entends, Balaji Badejo. Et oui, considéré comme un géant, c'était un cascadeur à l'époque. Et qui mettra le costume de l'alien. Juste une dernière chose sur l'autopsie de la carcasse où Ash fait une autopsie, l'arachnide. Ça a été fait avec des fruits de mer. Donc quand il fait l'autopsie, tout ça, il y a plein de bulots et machin, et tout ça, c'est constitué de fruits de mer pour le corps de
l'arachnide. Rien ne se perd, ils l'ont mangé le soir après.
Non, voilà, je voulais juste parler de cette alien qui est devenue aujourd'hui une œuvre à part entière.
Ça fait partie de ces trois bons films.
Ça fait partie des films qu'il ne faut plus toucher.
Arrêtez.
C'est lui qui retouche à chaque fois.
Mais oui.
Il dénigre Aliens de Cameron, qui est pour moi aussi
il
un
est pas mal. Il est pas
mais
mal.
Non, mais les quatre, enfin la quadrilogie, elle est fantastique.
Après,
ils ont
discute,
chacun
c'est subjectif.
Et après, lui, des préférences.
Ah bah en fait, ça s'arrête à Alien. Après, ça n'existe pas. Puis
il a dit c'est mon film. Allez vous faire foutre. Vous avez des bonnes idées, mais c'est mes idées les meilleures.
Alors que la quadrilogie, elle est exceptionnelle.
Il y a eu vraiment une vision de réalisateur sur chaque film.
Voilà,
c'est
et
ça.
Moi,
donc déjà,
et
c'est
bien. T'as très peu de quadrilogies, de suites comme ça, où t'as un réalisateur qui apporte sa touche.
Ouais, là, j'en ai pas en tête.
Je la trouve extrêmement riche, moi, cette quadrilogie. Et Alien, le premier, il est...
Magnifique.
Chef d'œuvre.
Et la musique.
Bah, il n'y avait pas d'équivalent.
Attention, Jerry Goldsmith.
Oh, Jerry Goldsmith.
Ouais, si vous n'avez jamais entendu parler de Jerry Goldsmith, c'est que vous nous écoutez pas.
et la musique, c'est le thème principal d'Alien.
Tout
c'est
à
ça
fait.
Allez, on se lance, on se retrouve sur Ciné Primitif. Thank you. Et donc, on vient de s'écouter la musique d'Alien, le thème principal, Bobo.
Oui, de Jerry Goldsmith.
Et voilà.
Écoutez-le, même si vous avez un enfant en bas âge qui vient de naître, qui n'a pas un an, mettez-lui du Jerry Goldsmith, du John Williams, faites-lui plaisir.
Je vous propose qu'on passe au film suivant, film que j'ai choisi.
La Mouche.
La Mouche. Un film sorti en 1986, réalisé par David Cronenberg, qui a fait plein de films cool. Grave. Scanners, History of Violence, Les Promesses de l'Ombre.
Vidéodrome.
Il y en a plein que j'ai pas vu aussi, mais que j'ai envie de voir, parce que franchement, je trouve que c'est un super réalisateur. Au casting, on a Jeff Goldblum et Gina Davis. Il y a un autre acteur, je l'ai pas noté, mais au fait, en gros, ils sont un peu trois dans ce film.
Après, on s'en fout, il y a Jeff Goldblum, quoi.
Voilà,
ouais, c'est Gina Davis aussi. C'est...
Oui.
Ouais.
Non, qui a joué dans quoi, Gina Davis?
Thelma et Louise, Beetlejuice, L'île aux pirates.
Attends, on peut parler quand même de Jeff Goldblum, quand même, qui est extraordinaire.
Oui, si tu veux, on va en parler de toute façon. J'ai pas encore présenté le film.
Il a joué dans quoi, Jeff Goldblum?
Dans Jurassic Park.
Ah oui.
Et Jurassic Park 2.
Et Independence Day.
Et dans Jurassic Park. Alors, le synopsis... Cette Brundle, un scientifique, va faire la rencontre de la journaliste Veronica Kaif. Il la ramène à son laboratoire et lui montre son invention, le télépod. Une machine qui permet de téléporter des objets d'une cabine à une autre, mais pas les êtres vivants. On se rappelle du passage avec le babouin, le premier test.
C'est assez chaud.
Le pauvre babouin, nous on défend les animaux.
Hein. Ah mais oui, déjà la mouche plus le babouin, ça fait beaucoup quand même hein, pour la défense des animaux ici.
Donc comme vous l'aurez compris, le babouin finit pas en très bon état.
Oui, mais c'est là que ça déclenche le film, j'ai envie de te dire.
Ils ont cassé le babouin.
Parce que jusque-là, tu regardes un film normal,
oui.
Et puis d'un coup, t'as le babouin qui est éclaté, et là, tu dis « Ah ouais !»
Ça va être un peu dégueulasse.
Ouais, voilà.
Donc après, Seth et Veronica vont entamer une relation, et grâce à cette dernière, Seth a l'idée de reprogrammer sa machine pour qu'elle fonctionne également avec des êtres faits de chair et de chant. Donc comme ça, les babouins seront en sécurité. Le deuxième test avec un babouin est d'ailleurs concluant.
Son frère.
Ouais. Un soir, alors que Veronica ne rentre pas, Seth s'inquiète que celle-ci reprenne sa relation avec son rédacteur en chef. Il décide alors après, avec quelques verres, il a bu un petit coup, hein, d'essayer son télépod avec comme cobaye lui-même. Mais lors de l'expérience, une mouche entre dans la cabine et son ADN fusionne avec celle de Seth. De là va commencer une métamorphose pour le scientifique. Et au départ, ça se passe plutôt pas trop mal, hein. Il prend confiance en lui, il devient plus fort, il fait des trucs de mouche, enfin de homme fort. Et petit à petit, non, il y a une vraie métamorphose. C'est plutôt dégueulasse d'ailleurs.
On est dans la chair. Hein.
Ouais.
c'est du Cronenberg, de toute façon, au niveau des effets spéciaux, il est quand même, il est quand même fort. Hein.
À fond. Il respecte bien ce qu'il fait.
Et la performance de Goldblum, parce que même une fois qu'il est transformé à fond, mulet. Tu reconnais au final son jeu, ses mimiques, tu le reconnais.
Ah oui,
je sais pas comment dire, mais...
Ou même sur la fin, tu crois que c'est lui?
Ah ouais, ouais, franchement, il y a un truc, je te jure que c'est vrai.
Ok.
Ouais,
là on est dans l'horreur viscérale, la chair et tout.
Ouais, franchement, c'est assez dégueulasse quand même. Et c'est bien fait, c'est ça le problème. Et la mouche, quand même, une petite anecdote, c'est un remake d'un classique de la SF, sorti dans les années 50, La Mouche Noire. Mais... ça avait pas grand chose à voir au final.
Non.
Parce qu'au final, il y a toujours l'histoire de base où il y a une mouche qui rentre dans le téléphone.
On n'est pas dans le viscéral et tout, sur l'homme mouche quoi.
Et moi, je crois que. Je sais pas, hein, je suis pas un expert, mais je crois qu'il y a eu une expérience scientifique, pas celle-ci, hein, mais une vraie expérience scientifique qui a périclité à cause d'une mouche. Et ouais. ça a pu
la mayonnaise n'avait pas levé parce que la
mouche. Ouais, voilà, tu vois, une connerie comme ça, une connerie comme ça, quoi.
Non, mais je crois que c'était à cause de Jeff Goldblum.
Ah bon?
Ouais, il y a une expérience comme ça, j'ai entendu ça. Ouais, mais
à vérifier s'il y a des scientifiques qui sont un peu sur l'histoire de la science.
Appelez-nous.
Appelez-nous.
Ouais. On est prêt à faire le
test. Est-ce qu'une mouche n'aurait pas
périclité
une expérience scientifique quelconque?
Non, après, le film a été récompensé quand même aux Oscars en 1987 pour le meilleur maquillage et on comprend pourquoi. Donc, le maquillage qui a été fait par Chris Wallace et Stéphane Dupuis. D'ailleurs, Jeff Goldblum a dû subir des prothèses de maquillage pendant des heures.
Ah bah, oui, j'imagine.
Je crois 5 heures par jour, ouais, en même temps, quand tu vois, après, ça devait pas être sympa, quoi.
C'est pas le pire, mais je pense que ça devait être un peu galère.
Voilà. Et sinon, dernière petite anecdote, David Cronenberg a fait un petit caméo dans le film. Vous souvenez de la scène de l'avortement super malaisante?
De souvenir, il fait souvent des caméos dans tous ses films.
Ah oui, peut-être, mais là, cette scène-là est vraiment...
Il y en a même où il joue des rôles.
Elle m'a pas mis bien, cette scène.
Ça va.
Une expérience personnelle à nous raconter.
Ah non, pas du tout, j'ai jamais fait d'avortement.
De mouche.
Un petit réplique de Jeff Goldblum, donc le scientifique. J'ai le sentiment d'avoir toujours été un insecte qui rêva un jour qu'il était un humain. Mais le rêve est fini. Là, c'est complètement... Il a perdu le contrôle. C'est devenu un insecte. C'est une mouche.
Le seul défaut que je trouve au film, c'est qu'il est un peu court. Je sais pas s'il y a une version longue.
Mais c'est vrai. Mais il n'y a pas de développement même de personnages et tout. C'est vraiment... Il va à l'essentiel. Hein.
Ouais, c'est, mais c'est pas plus mal.
Je trouve que c'est bien. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur ce film?
Attends, moi, j'aurais fait plus long la fin.
La fin, et ouais,
c'est pas expédié. Après, bon, il se décompose aussi.
Ouais, non, mais ça finit comme ça doit finir.
Moi, j'ai bien aimé aussi, mais je le trouve trop court. Okay.
Ouais, mais t'as pas le temps de te faire chier. Tu vois une belle transformation d'un scientifique qui paraît agréable, mais qui devient complètement dingue. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur la mouche.
Tu peux nous parler un peu de la BO, s'il te plaît, Nono?
La BO, oui, tout à fait. Alors, la BO, je viens de jeter ma fiche, je retrouve ma fiche.
Parce que, du coup, il faut que tu
Howard Shore, qui est bien sûr le compositeur de Seigneur des Anneaux, une meilleure bande son de tous les temps.
Et le Hobbit aussi.
Le Hobbit, par contre, on peut pas dire que c'est une des meilleures bandes son de tous les temps.
Ouais, il a fait aussi le Who de Wall Street et surtout beaucoup de films de David Cronenberg. Mais effectivement, il a fait Le Seigneur des Anneaux.
Pandar. Enfin, il a fait Le Seigneur des Anneaux.
C'est des dizaines d'heures de musique.
C'est comme si tu disais, j'ai construit la tour Eiffel. Tu vois, qu'il ait construit 2-3 ponts avant Eiffel. Enfin voilà, t'as construit la tour Eiffel.
Oui, Howard Shore, très grand compositeur. Oui. Après, la musique, forcément, là, c'est plus des musiques d'ambiance dans la mouche. Donc il n'y a pas de gros thèmes comme dans Le Seigneur des Anneaux. Mais la musique reste très agréable à écouter, et donc c'est le thème principal. Du coup, on vient de s'écouter Howard Shore, musique dans la mouche, le thème principal. Et on passe au film suivant, ce film de Bobo.
Oui, Pitch Black, sorti en 2000 de David Towie. The Rival, Abîme, avec une distribution avec Win Diesel quand même. Win Diesel, qui a joué dans Le Soldat Ryan, Fast and Furious, Triple X, Les Hommes de Main, Babylon A.D. Ah, je vois ta tête, tu le vois pas dans Le Soldat Ryan.
Non, effectivement, je le vois dans tous les autres films de Luke
que t'as
dit.
Je crois que c'est, je sais pas si c'est un caporal, mais c'est Capardo. C'est Vin Diesel.
C'est son meilleur rôle.
Non, mais c'est le rôle qu'il l'a lancé quand même.
Ah ouais ?
Ouais. Voilà, avec un synopsis où un vaisseau spatial se fait percuter par une pluie de météorites et ils doivent s'écraser, atterrir en urgence sur une planète inconnue. Les quelques survivants donc, tentent de s'organiser avant d'être confrontés à des créatures effrayantes et voraces et découvrent qu'elles craignent la lumière. Aucun danger pour les survivants tant qu'ils restent à la lumière de jour. Surtout que cette planète possède 3 soleils. Quand même extraordinaire. Cependant, une éclipse va plonger la planète dans l'obscurité totale. Parmi ce groupe de survivants, figure mythique Riddick, un tueur sans état d'âme doté d'une acuité visuelle exceptionnelle. Il est nyctalope.
C'est atteint de cécité et nyctalope. Et une acuité visuelle particulière.
Voilà. Nyctalope, ça veut dire que tu vois dans le noir. On a des répliques cultes comme « Vous n'avez pas peur du noir, n'est-ce pas ?» alors que lui, effectivement, Riddick voit dans le noir.
C'est vrai que c'est culte.
Vous semblez tous avoir tellement peur de moi, mais ce n'est pas de moi dont il faut avoir peur.
C'est des effets spéciaux.
Ouais. C'est sorti au cinéma. Oh mon dieu.
Mais après, on est sur un thème monstre, et excuse-moi, les monstres sur Pitch Black,
ils sont monstrueux.
Ils sont magiques. Ils sont magiques. T'as un mélange de vélociraptor et de requin qui volent. C'est extraordinaire.
Bah, moi, ce film, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Hein. Je le comprends pas. Aussi.
Ah bon ?
Ah non, vraiment pas. En fait, c'est monté d'une manière où tu comprends rien. C'est pas combien de jours se passent, mais que de toute façon, il fait jamais nuit. Et c'est voulu. Des personnages se téléportent vraiment à des moments et je suis perdu. Il y a l'esthétique visuelle fait pour montrer un peu ce que voit Vin Diesel, du coup c'est... Et il y a surtout un gros problème, la vue subjective des monstres. C'est un truc que je comprendrai jamais dans les films. Se voir du point de vue intérieur du monstre. À la fin, on voit deux monstres carrément qui regardent Vin Diesel pour le zoomer en scan de cri. Je l'avais vu il y a une quinzaine d'années au lycée. Je l'avais pas vu depuis. Et je pense que j'avais préféré la première fois. Mais après, ça se regarde. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Parce que ça a quand même fait un buzz à l'époque, je me souviens que plein de gens étaient fans. C'est le premier vrai gros film de Vin Diesel, certes, mais après
dans les années 2000, on était un peu moins exigeants au niveau des effets numériques aussi.
Ouais, c'est, le début des tournages en numérique et tout. Mais
avec du recul, 20 ans après, 25 ans après.
C'est adapté d'une...
Puis après, t'as un
c'est
nouveau...
adapté d'un comics ou d'une
t'as BD, un nouveau...
Je me dis, c'est fait d'une manière un peu... C'est comics, BD... C'est pas l'histoire originale. Ça.
Après, si tu veux, c'est un nouveau homme musclé qui arrive au cinéma. Ouais. Quoi. Après Schwarzy, après Van Damme, après Stallone.
T'as la suite, après c'est les chroniques de Riddick. Et,
Mais mais c'est le premier film où tu vois un nouveau acteur musclé. Quoi. Après, je reviendrai quand même sur les monstres qui sont signés Tatopoulos. Qui sont incroyables, donc ces monstres qui sont un croisement improbable entre des requins marteaux et des ptérodactyles. Donc son œuvre de ce Tatopoulos qui est designer sur Stargate qui le lance aussi dans Independence Day, Godzilla, Underworld ou iRobot.
Enfin
voilà, tu vois, c'est quand même un personnage important.
Ouais, mais c'est pas en fait, c'est pas en mécatronique. Moi, je suis un adepte de mécatronique et pas du tout de CGI. Et le design en soi, je suis rien contre, mais il est pas justifié d'être fait en animatronique, du moins en CGI. Surtout qu'à l'époque, les CGI, ça coûte une blinde pas possible.
Et c'est vrai qu'ils ont peut-être plus investi en faisant ça comme ça, alors que
je sais pas.
25 ans après, c'est
le film se regarde. Hein, c'est juste, je sais pas, j'ai pas le public. Cible, je pense, c'est tout.
Après, il y a John Cox qui est chargé de la création des monstres qui dit « Je n'ai jamais rien vu de plus terrifiant que ces créatures. Elles mesurent 2m40 de haut avec des bras longs de 1m20 et des ailes de 2m40. Mais la tête est probablement la plus effrayante avec son énorme gueule prête à tout dévorer. »
La gueule est sympa.
Moi, ce film, effectivement, il y a plein de défauts, etc.
Non, mais je sais que
il y a une création sur ces monstres
Justement, c'est vrai, je te demandais si c'était une adaptation.
Des monstres sympas là, en mode Starship Trooper un peu. Style, sauf que.
Ils sont à poil. Moi, j'ai envie de te dire, les mecs, ils arrivent sur une planète, il y a des monstres comme ça, et ils sont à poil.
C'est un bon petit téléfilm.
Ouais. Sur Pitch Black. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un film que je peux regarder, que j'ai vu pas mal de fois.
Mais il est mieux que les Chroniques de Riddick. Hein.
Bref, et Pitch Black, elle repose sur une idée que je trouvais fascinante parce qu'elle nous plonge au cœur de l'enfance et de nos plus grandes phobies nocturnes. C'est ce qu'explique le producteur John Ingelman. Lorsque j'ai vu le scénario la première fois, j'ai retrouvé cette peur lointaine que nous avons presque tous connue.
Parce que le scénario est bien, c'est juste j'ai du mal à comprendre en fait.
Bah écoutez, regardez le film, vous l'avez pas vu.
J'ai pas accroché, je suis pas genre amateur de genre de...
Mais le scénario est bien, c'est dommage.
Mais du coup, on passe à la BO. Ouais.
On est sur une musique de Grimmy Weaver, qui a fait The Basketball Diaries, Une Nuit en Enfer, Négociateur, Blow, Sin City. Enfin voilà, c'est pas n'importe qui. Okay. Et c'est vrai que la bande-son, elle est géniale quand même, bien sûr.
Et le titre que tu as choisi, c'est Race Against the Sun. Du coup, c'était musique de Pitch Black, ton film, Bobo. Enfin, le film que tu as choisi.
Oui, tout à fait. Grammy Rival. Voilà, la course contre le soleil.
Avec Vin Diesel.
Vin Diesel, oui.
Ok. Et moi, je vous propose le film suivant. Toujours sur le thème monstre. Le film, c'est Reanimator. Sorti en 1985 et réalisé par Stuart Gordon et William Norris, qui n'ont pas fait grand-chose, je crois, par...
Stuart Gordon, quand même, un peu.
Je crois qu'il a fait les suites de Reanimator. Les autres films, je les connais pas. Alors, peut-être pour les amateurs du genre.
Il a fait des Master of Horror. Ouais, voilà, je pense. Il a fait Duki, puis il a fait Quatrième Dimension.
Voilà, je pense pour les amateurs de genre, mais, je ne connaissais pas. Pour le petit synopsis... Herbert West, c'est un étudiant en médecine à l'université de Miskatonic. Il suit des cours du professeur Carl Hill sur le cerveau. Très vite, les deux hommes s'opposent car West prétend pouvoir vaincre la mort. Celui-ci s'installe en colocation avec un autre étudiant, Dane Kane. Et dans la cave de l'immeuble, transformé en laboratoire, West met au point une étrange mixture, un peu fluo, qui, selon lui, permettrait de réanimer les morts. Et d'ailleurs, le chat Rufus de Dan va en faire l'expérience. Alors, on ne sait pas comment il est mort, mais en tout cas, il va être ramené à la vie par West. Et malgré l'avis du doyen, Dan se laisse embarquer dans les expériences de Herbert. Donc, en fait, vous l'aurez compris, c'est un film de Reanimator, quelqu'un qui fait revenir à la vie des morts.
Qui éclate un chat pour le faire revenir.
Bon, alors, on ne sait pas s'il a éclaté le chat.
Je pense qu'il l'a éclaté.
Oui, je pense qu'il l'a éclaté.
Ouais, et puis il l'éclate une deuxième fois.
Oui, au cas où, pour le faire revenir à la vie.
Ouais, il n'est pas très clair, effectivement.
Mais en fait, il aime bien faire revenir les gens à la vie. Et c'est un beau principe, tu
on
vois.
On est
mais...
loin de Hélène Ripley qui sauve le chat, quand même, de l'alien. Dans non, le 8e passage.
Le mec, c'est complètement un psychopathe. Il ne fait pas revenir les gens à la vie parce qu'il a envie de les faire revivre, et il fait ça parce que...
Enfin, concours de pianiste avec son prof de fac.
Et le pauvre Dan, son colocataire, va en faire un peu les frais aussi. Voilà, bah il le suit quand même, donc il est un peu d'accord.
Bah en même temps, il est étudiant en médecine aussi, et bon... Bah, il tu vas passer dans les livres à réanimer
oui,
les gens.
Bah exactement, d'ailleurs, Dan lui demande dehors de leur première rencontre, « Alors West, dans quel type de médecine êtes-vous impliqué ?» Et West lui répond,
« Des morts. »
La mort. Mais le film, par contre, est très bien, quoi. Un film... Donc inspiré par une nouvelle de Lovecraft.
C'est oui, c'est une nouvelle. Alors je sais plus le nom de la nouvelle.
Moi non plus, je n'ai pas noté, mais en tout cas.
Bah c'est on est dans le thème. Hein, moi.
Là c'est thème monstre. Ouais, c'est pas zombie en plus. J'ai envie de dire, c'est pas non plus des gens qui vont se mordre entre eux, etc. Se refiler des maladies.
Non. Et puis le film il pose des bases quand même qui seront suivies par d'autres films comic gore suivants.
C'est ça, c'est un peu comique quand même.
Là, sur Retour des morts vivants, Brain Dead et tout. Exactement. Sont largement inspirés de ce film.
Et en plus c'est ouf parce qu'il était tourné en 18 jours.
Ouais, bah ça à l'époque pour ce genre de film c'était.
Ouais, c'est vrai. Mais par contre, il est assez bien fait. Enfin,
oui.
C'est pas dégueulasse à regarder, ça fait plaisir. Une grosse anecdote là quand même. C'était Christopher Lee.
Je savais pas.
Ouais, il devait jouer le Dr. Hill. Le rôle avait été écrit spécialement pour
mais
lui.
Mais non, mais clairement. Mais j'ai pris un mec quand même tête. Hein.
Oui, c'est vrai. Okay. Du coup, c'est le sosie de Christopher Lee qui joue dans ce film.
Ah ouais, un truc sur la musique de Reanimator qui m'a un peu choqué, c'est. Clairement un plagiat
de quoi
de Psycho, la musique.
Eh oui, c'est vrai.
C'est les trois premières notes, en boucle, hop, ça change un petit peu, puis hop, ça repart sur les trois premières notes.
Eh, c'est vrai qu'il y a un, ouais, il y a un délire.
Ah, à fond, je vais pas poursuivre plus mes recherches. Mais...
Non plus, mais voilà, bah, du coup, Bobo, t'en as pensé quoi de ce film, parce qu'on t'entend plus?
Ben non, non, très bien. Très belle surprise, véritablement, je le connaissais pas. Mmh. Belle surprise, je savais pas où ça allait me mener cette.
Ah oui, j'avoue que tu sais pas trop où ça part, non.
Voilà, voilà.
Est-ce que ça va être un nanar ? Est-ce que ça...
Ouais. Finalement, belle surprise, belle
c'est
surprise.
Pas un nanar.
Non, puis j'aime bien les retournements de situation, l'évolution des personnages, notamment une fois qu'ils sont morts et qu'ils sont réanimés. J'aime beaucoup. J'aime
pas
beaucoup,
les passages. Bien drôle.
Et cette question de, effectivement, je peux ramener quelqu'un à la vie. mais il y a des conséquences derrière.
Oui, oui, hein, oui,
comme le chat.
Il y a quand même des conséquences. Ouais.
Voilà, la question se pose. Est-ce que tu fais revivre un être que tu aimes, même s'il ne sera pas totalement identique à ce qu'il était avant?
Ouais,
voilà.
Non.
Voilà. Non, c'est vraiment pas mal.
Ne le faites pas, parce que si...
Mais on est sur du scientifique qui a mal tourné, comme dans La Mouche.
Ouais, voilà. Problème d'ego, quoi.
C'est, surtout. C'est un peu la même histoire que La Mouche, quoi.
C'est vrai.
C'est même si on a le
scientifique. Et c'est les deux films que j'ai choisis. Oh,
voilà. Une âme de scientifique qui se cache derrière toi.
Je suis un scientifique fou.
Ouais, refoulé.
Il n'y a pas d'effet spécial, il n'y a pas de CGI dans ce film.
Non, c'est vrai.
faut avouer que le CGI, c'est un truc... Il sera forcément démodé, surtout au début des années 2000, en l'espace tous les ans, c'était déjà passé.
Même James Cameron avec Avatar, bah, c'est déjà démodé, mec. Faites du...
Lui, le problème, c'est que c'est tout en CGI. Alors, Star Wars, tout en CGI, fond vert.
Oui. Bon, alors, la musique que je vais vous passer pour Reanimator, bah, forcément, c'est le thème principal. Il n'y a pas énormément de
Et
musique.
Je ne savais pas que c'était le mec qui avait composé la musique de Puppet Master.
Oui,
découverte.
Je l'ai noté exprès pour toi parce que tu nous as parlé de ce film.
Cette musique de Puppet Master, en plus.
Allez, on s'écoute Reanimator, le thème principal, et on se retrouve après dans Ciné Primitif. Et du coup, on vient de s'écouter la musique de Reanimator. Le thème principal, un petit bijou ce film.
Oh oui.
Et on enchaîne direct avec le dernier film de monstre.
Ouais, bah...
Le meilleur. Là, on va pas se
mentir. Ouais, bah là, on peut pas dire grand-chose. Après, c'est quand même un réalisateur dont on n'a pas encore parlé. Hein.
Ce soir voilà. Alors, oui. Alors moi, on va présenter The Thing. Alors, The Thing, c'est un remake réalisé par John Carpenter en 1982.
Mais qui est-il? Qui
Jean est John Charpentier. Ah, Jean Charpentier, oui. C'est un remake d'un film sorti dans les années 50, soit 58... The Thing from another world, je crois, la chose d'un autre monde. Enfin bref, c'est pas un chef-d'œuvre non plus ce film. Alors, le film The Thing de John Carpenter, par contre, l'est.
Ah oui.
Dans une station de recherche isolée en Antarctique, une équipe de scientifiques découvre une créature extraterrestre capable d'imiter parfaitement ses victimes. Alors que la paranoïa s'installe au sein du groupe, chacun commence à soupçonner les autres d'avoir été infectés. Une lutte désespérée pour la survie commence. Donc, on n'est pas sur un huis clos, mais on est dans...
Bloqué dans l'Antarctique.
Dans l'immensément grand, en fait.
Dans l'Antarctique, voilà. Bah, t'es bloqué quand même dans une base scientifique.
Non,
presque un huis clos.
Oui, mais c'est juste, t'es bloqué dans un truc tellement grand que...
Ouais.
Le film est génial. Les effets spéciaux sont parfaits. Oui, il y a un acheté. C'est librement inspiré des montagnes hallucinées de Lovecraft. Hein. On voit que ça plonge vraiment dans l'horreur cosmique total.
Ouais, et puis Kurt Russell, hein, si tu veux. C'est ce que j'allais dire. T'embrasses Kurt Russell.
Ce que j'allais dire, on a quand même l'un des meilleurs réalisateurs de l'époque, avec l'un des meilleurs compositeurs de l'époque, avec l'acteur le plus charismatique de l'époque.
Mais pour moi, à part qu'il fait 1m50.
Mais tu sais que le budget initial, c'était 15 millions. Chaque acteur a été payé 50, sauf Kurt Russell. 400 000 et les effets spéciaux avaient prévu 700 000 $, donc c'était largement pas assez pour tout.
Ah ouais, parce que les effets spéciaux
ont dû supprimer 2-3 scènes, 2-3 effets spéciaux. Il y en avait un qui coûtait $1 million juste pour une scène, ils l'ont pas mis. Ils ont supprimé pas mal de choses, mais dans les effets spéciaux, c'est réalisé par un tout petit jeune à l'époque,
21 ans, je crois,
22 ans 22, au moment du film, Rob Bottin. C'est lui qui a fait aussi les effets spéciaux du hurlement.
C'est ouf.
Total Recall aussi. Total Recall aussi, les effets spéciaux sont parfaits. Enfin bref, ce film-là a une puissance totale parce qu'on ne sait pas où savoir, on ne sait pas qui est qui.
Ouais.
Qui est possédé, qui n'est pas possédé. Même les chiens sont soupçonnés de tout le monde.
De toute façon, ça commence avec. Cette peur et ce doute, c'est extraordinaire.
Ça commence déjà avec les Norvégiens. Qui coursent un chien en lui tirant dessus. Parce qu'eux, ils savent que c'est la créature.
Mais les Américains, dans l'autre base,
ils se disent
mais pourquoi ils tirent sur le chien? C'est des fous.
Il y a la barrière de la langue. Ils n'arrivent pas à se comprendre direct. Et du coup, ils tuent le Norvégien.
Bah oui, plutôt que tu aies un petit chien mignon.
Un chien mignon qui te fait des léchouilles sur le visage.
Bah oui.
Bon, déjà, le film, on sait que c'est une créature extraterrestre. Ça s'ouvre par un plan d'un vaisseau qui s'écrase sur Terre. Après, on n'en parle plus de tout ça, mais... l'ambiance est là. Les effets spéciaux sont à couper le souffle. Les créatures improbables et jamais vues, hein, c'est... On n'est pas dans un monstre classique, c'est vraiment du viscéral, de la chair qui s'anime.
Et tu sais pas à quoi il ressemble, le monstre.
Non. Oui, et en plus,
puisqu'il est sans cesse en transformation.
C'est ça.
Et bien, assez vite, ils savent qu'il y a un monstre qui peut se transformer en n'importe lequel d'entre eux. Mais ce qui est assez fort, c'est que les personnages, on sait tous leur rôle, etc. Mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Du coup, pour nous, n'importe qui peut être le monstre.
Et là,
tu rentres dans la paranoïa des personnages.
Le monstre, il a une intelligence. Il a l'intelligence, au final, d'arriver à se cacher et d'imiter. Ouais.
De toute façon, ils disent dans le film. Lui, son but, c'est de se cacher juste à temps qu'il soit assez.
On arrive aussi sur un film où les personnages sont tellement bien créés, comme dans Alien. Il faut pas grand chose. C'est qui fait quoi.
Oui, c'est ça. Mais sans les développer plus, parce qu'il faut qu'il y ait une ambiguïté.
On arrive dans le feu de l'action, ça commence un Louis court. Avec un hélicoptère qui tire dessus.
Oui.
Et après, c'est parti. Moi, je regrette toujours que ça soit un peu court. Hein, mais bon.
Il a jamais pensé à faire une suite.
Non, parce qu'en fait, ce film-là a eu le malheur de sortir en même temps que E.T. Il a eu le même problème que Blade Runner. En fait, c'est des films qui sont tous sortis la même année que E.T.
Ah, mais je supporte pas Blade Runner.
Ah, j'aime bien, mais bon, enfin bref, dans tous les cas, il est sorti en même temps que E.T. et ça a fait ça a coûté 15 millions. Normalement, c'était le budget de base, mais ça avait dépassé et ça a rapporté 19 millions.
Il y a eu
John Carpenter sera complètement déprimé du gros cinéma parce que c'est produit pour Universal. Hein. C'est son seul film qu'il a fait avec Universal. Et du coup, ça lui a coupé l'herbe sous le pied et plus jamais il a voulu refaire de film.
Tiens, c'est con alors que chez
Dove. Gros budget. Et il a été bien sûr remis sur son piédestal bien après.
Il y a eu un préquel qui est sorti en 2011.
Ils ont fait un préquel que j'ai pas regardé entier parce qu'il y a un problème de CGI. Il y a aucun mécatronique dans ce préquel.
Ouais. Ils
ont tout créé les mécatroniques, mais pour une question de budget et parce que la prod voulait pas. Parce que c'était trop violent et trop glauque, ils ont préféré mettre des CGI.
Comment niquer un bon film, voilà.
Je suis pas sûr qu'il aurait été bien pour autant. Pour revenir à The Thing de 82, une chose aussi improbable, Ennio Morricone qui compose la musique de John Carpenter.
C'est clair, Ennio Morricone, le plus grand...
Je suis pas sûr qu'il ait fait de bon cœur.
Plus grand, je sais pas, mais non, très grand compositeur. Sûr,
il l'a renié longtemps, après John Carpenter a pas renié son
film. Effectivement, moi je trouve qu'il est... Ça ressemble plus à du John Carpenter au niveau de la musique.
En fait, John Carpenter a guidé Ennio Morricone. Il a dit ce qu'il voulait. Ennio Morricone n'a pas eu le choix. Je pense que c'est un chouette producteur de mettre
Ennio
Morricone.
Je ne
suis pas sûr qu'il s'entendait spécialement avec John Carpenter.
Ouais.
Mais la musique est un chef-d'œuvre.
Oui, quand même. Oui.
Bon, après, quoi d'autre sur le film? Ça n'a pas été tourné en Antarctique. Hein, avec 19 millions, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu de quoi en étouffant. On a tourné ça au Canada, c'est beaucoup plus près. Voilà, donc au Canada, après, il y a un peu de studio. Mais sinon, ils ont tourné ça pour des questions de budget. Ils ont vraiment tourné ça dans le froid. Ils ont tourné de nuit, toutes les scènes de nuit. Ils disaient que c'était impossible de tourner de nuit et tout, mais plutôt que les enlever pour
supprimé complètement. Ils ont fait, non, on force, on va les faire de nuit et tout, dans le froid réel et tout. Et ils ont tout tourné. Et ils ont réussi à pondre ce chef-d'œuvre ultime. Mm. Parce que bon, c'est un chef-d'œuvre, on peut pas...
Voilà. Sur le thème monstre, voilà.
Un monstre qui n'a pas de forme.
C'est la chose. Voilà, c'est...
Un peu le blob.
La chose qui absorbe tout, c'est ça, c'est un blob. Ça absorbe, ça cumule. Mm-hmm. On sait même pas ce qu'elle veut.
Anéantir toute forme de vie.
Mais oui, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a John Carpenter, il n'y a pas forcément d'explication.
Le scénario est pas de lui, hein. Il a dû le retoucher un peu, mais alors, le scénario il a été transformé je ne sais combien de fois avant.
Ok.
Ah, il l'a retouché sur la fin parce que le scénario au début il l'avait pas accepté. Il y avait un autre réalisateur qui devait le faire. Et c'est arrivé quand même dans les mains de John Carpenter un moment, qui a bien voulu, qui s'est dit c'est le moment où je vais pouvoir faire un gros film avec Universal et tout. Et en fait ils lui ont dit bah non, toi regarde, t'arrives à faire des films avec 1 500 000 balles, on va pas te donner une et tu vas nous en rapporter.
Et voilà, c'est vrai qu'il avait pas besoin de grand chose, John Carpenter, pour faire des chefs-d'œuvre.
Encore une fois.
Mais c'est sympa en tout cas de le découvrir sur cette émission, John Carpenter.
Ouais. Bon, on l'invitera un de ces quatre.
Oui, parce que là ça fait au moins le 10e film qu'on présente de lui.
Non, mais je pense que vous allez faire la filmographie de.
Je pense qu'on est fan de
John Carpenter. Dans les
vous êtes. Après, moi, il y a certains films que j'adore. Vous êtes des gros malades de John Carpenter.
John Carpenter, j'adore.
Moi, il y a.
Épouse-moi, John.
Marry me, John.
Il y a 2-3 films que j'aime bien de John Carpenter.
Mais que tu les as pas tous vus.
Mais non, j'ai pas tous. Il faut avoir des problèmes.
Non, par contre, il est comme tous les réalisateurs. Il a atteint son pic à un moment et ses derniers films, c'est pas fou.
Et on va lancer la roulette magique pour le prochain thème.
Vous êtes prêts pour la roulette magique? Il reste que 4 thèmes.
Ouais. Je lance. Bientôt, on n'aura plus besoin de roulette, quoi.
Et c'est quoi? C'est quoi? C'est. Oh yes! Film de notre enfance. Alors là, okay, c'est mon thème.
Ça marche.
Ça va être génial. Du coup, on a notre prochain film avec la roulette. Donc, film de notre enfance. Je vous laisse réfléchir pour le mois prochain. Et David, tu vas nous annoncer du coup le.
Eh ben, la musique d'Ennio Morricone, et c'est le thème principal du film.
Ok.
On entendra dans le film presque.
Ouais. Et c'est parti. Et on se quitte là-dessus. On vous fait des bisous.
Et au mois prochain.
Et au mois prochain pour les films de notre enfance.
Au début, il n'y avait rien. Quand soudain...
Radio Primitive.
Le foutoir.
Hein, le foutoir.
Toi en l'air.
Le foutoir.
Toi.
Le foutoir.
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 Et vous êtes bien dans le foutoir de 19h à 20h en live avec maintenant Pris de retour.
Salut Broco.
Oui, et moi-même, Monsieur Broco.
Comment vas-tu?
Eh bah, ça va très bien, et toi?
Bah écoute, mieux hein, que la semaine dernière, puisque j'ai pas pu assurer l'émission, j'étais malade, alors après, je ne suis pas encore à 100% de ma forme, mais en tout cas suffisamment pour tenir une émission et puis parler correctement.
Oui, c'est vrai, mais je te vois bien en forme par contre, moi.
Ouais,
le sourire aux lèvres, tout jeune, tu as...